Paris et sa fameuse structure en escargot, ses arrondissements. C'est une image vraiment iconique, hein? Mais on se demande parfois comment cette ville, comment cette organisation administrative si particulière a vu le jour, comment ça fonctionne vraiment aujourd'hui. Alors aujourd'hui, justement, on plonge là-dedans. On explore les arrondissements parisiens. On va regarder un peu leur histoire, leur fonctionnement actuel, puis on va même déterrer quelques petites anecdotes assez surprenantes. On s'appuie pour ça sur des documents qui tracent l'évolution de la capitale. L'objectif, c'est de comprendre cette spirale parisienne. D'ailleurs, petite info comme ça. Saviez-vous que la forme actuelle, cette numérotation, c'est en partie à cause d'une vieille superstition?
Ah oui, c'est un excellent point. Derrière ce qu'on voit comme un simple découpage administratif, ben il y a une histoire urbaine, une histoire sociale vraiment foisonnante. C'est beaucoup plus complexe qu'on pense.
OK, commençons simple, si on peut dire. C'est quoi, au juste, ces arrondissements?
Essentiellement, là, on parle de 20 divisions administratives. Mais, attention, internes à la ville de Paris elle-même.
D'accord.
Elles servent de cadre pour les élections des conseillers de Paris. Et ces conseillers, ils ont une particularité. Ils agissent au niveau municipal, mais aussi départemental. Paris est à la fois une commune et un département.
Faut pas mélanger ça avec les arrondissements départementaux qu'on trouve ailleurs en France, là.
Non, exact. C'est différent. D'ailleurs, Paris n'est pas la seule ville comme ça. Lyon et Marseille, elles aussi, ont leurs propres arrondissements municipaux.
Mm-hmm.
Mais le gros changement, le moment clé, c'est vraiment 1860.
Ah oui? Qu'est-ce qui s'est passé avant?
Ben avant ça, depuis la Révolution française, en gros depuis 1795, Paris avait juste 12 arrondissements. Et ils n'étaient pas numérotés en spirale. La logique, c'était plutôt ouest-est puis nord-sud. Et les formes étaient, disons, moins régulières qu'aujourd'hui.
D'accord. Et là arrive 1860, la grande transformation. C'était le fameux Haussmann sous Napoléon III, c'est ça?
Exactement, c'est ça. C'est une période de changement immense pour Paris. La ville a carrément absorbé toutes les communes qui se trouvaient entre son ancienne limite, le mur des fermiers généraux.
Qui datait d'avant la Révolution, celui-là.
Tout à fait. Et la nouvelle fortification, l'enceinte de Thiers, construite dans les années 1840. Donc, toute cette zone entre les deux a été intégrée. Du coup, la superficie de Paris a presque doublé. On est passé d'environ 3400 hectares à près de 7800 hectares. C'est énorme comme expansion.
Wow! Et c'est là qu'on passe de 12 à 20 arrondissements. Et à la spirale. C'est là qu'arrive l'histoire de superstition.
Ben oui, c'est fascinant. Le plan initial d'Haussmann, lui, il gardait une numérotation assez logique, linéaire. Mais le problème, c'est que ça donnait le numéro 13 au village très bourgeois de Passy et Auteuil, qui venait tout juste d'être annexé.
Oups!
Et là, tollé général. Faut savoir qu'à l'époque, il y avait une expression populaire. Se marier au 13e arrondissement, ça voulait dire, en gros, vivre en concubinage, en union libre.
Ah, mal vu dans ces quartiers-là, j'imagine.
Très mal vu dans la bourgeoisie de l'époque. Alors, le maire de Passy, un certain Jean-Frédéric Possoz, a relayé les plaintes et a eu cette idée géniale, ou en tout cas décisive, pourquoi pas numéroter en spirale en partant du centre. Et hop, Passy est devenu le très chic 16e arrondissement, et c'est un quartier plus populaire qui a hérité du fameux numéro 13.
Incroyable, une question de réputation qui change le plan de Paris. C'est fort. Et aujourd'hui, comment ça fonctionne cette structure? Est-ce que chaque arrondissement a toujours son propre maire, son conseil?
Presque. Il y a eu une réforme assez importante et assez récente, en 2020. Les quatre premiers arrondissements, ceux du centre historique, le 1, le 2, le 3, le 4e, qui étaient devenus les moins peuplés, en fait,
oui,
ont été regroupés. Ils forment maintenant un secteur administratif unique qui s'appelle Paris-Centre. Donc, ils partagent un seul conseil d'arrondissement, un seul maire, et la mairie de ce secteur, elle est installée dans l'ancienne mairie du 3e.
Donc, administrativement parlant, on a 17 secteurs, si je comprends bien.
C'est ça. 17 secteurs pour les élections et la gestion locale. Mais attention, sur la carte, géographiquement, les 20 arrondissements historiques existent toujours. Le découpage géographique n'a pas changé.
J'imagine que ces 20 arrondissements, même s'ils sont sur la même carte, ils doivent être très différents les uns des autres.
Ah oui, énormément. Prenez le 15e, par exemple. C'est immense et très peuplé. Comparez ça au 1er ou au 2e, qui sont minuscules à côté.
Oui.
La densité de population aussi, ça varie beaucoup. L'onzième, aujourd'hui, est très, très dense. Ces différences, bien, ça crée des réalités quotidiennes très diverses, des besoins différents en services publics, des dynamiques sociales propres à chaque quartier. Ça rend la gouvernance de la ville assez complexe, finalement.
C'est logique. Et d'un point de vue pratique, pour les codes postaux, tout ça?
En général, c'est assez simple. Le code postal suit le numéro de l'arrondissement, 75, et puis les deux chiffres, genre 75001, 75008, 75015. La seule exception notable, c'est le 16e. Comme il est très grand, il a deux codes, 75016 pour le sud et 75116 pour le nord.
Bon à savoir.
Et pour les statistiques, l'INSEE utilise un code similaire, 751XX, où XX est le numéro de l'arrondissement. Quant aux noms officiels, genre le Louvre pour le premier, Bourse pour le deuxième, Panthéon pour le cinquième, bah franchement, les Parisiens ne les utilisent pas vraiment au quotidien. On dit juste le premier, le cinquième.
Mmh. Ces limites de 1860, est-ce qu'elles ont bougé depuis ou c'est resté figé?
Très peu, en fait. Il y a eu quelques ajustements mineurs, surtout dans les années 1920-1930. C'était après la démolition des fortifications de l'enceinte de Thiers. Paris a annexé ce qu'on appelait la zone, cette bande de terrain tout autour qui était non constructible à l'origine. Et c'est aussi à ce moment-là que les bois ont été officiellement rattachés.
Ah oui, les bois.
Oui, le bois de Boulogne a été rattaché au 16e et le bois de Vincennes au 12e. C'est ça qui donne à Paris sa superficie actuelle, environ 10 540 hectares. Ses limites datent en gros de 1954.
D'accord, très clair. Une dernière petite question qui me chicote. On entend parfois parler d'un 21e arrondissement de Paris. Qu'est-ce que ça veut dire, ça?
Ah, le fameux 21e, c'est une expression assez purement symbolique. Ça n'a aucune réalité administrative.
OK.
Ça désigne, ben, ça dépend de qui parle, en fait. Ça peut être des zones très connectées à Paris, comme le quartier d'affaires de la Défense, juste à côté. Ça peut être certaines banlieues, parfois vues comme des extensions de Paris, que ce soit des banlieues aisées, comme Neuilly, ou des villes en pleine gentrification, comme Montreuil. Et parfois, ça va même plus loin. Certains utilisent l'expression pour parler de lieux de vacances prisés des Parisiens, comme Deauville, ou même des villes étrangères où il y a beaucoup de Français expatriés, comme Ixelles à Bruxelles. C'est vraiment une image, une façon de parler.
D'accord, c'est plus une métaphore alors. Bon, pour résumer un peu tout ça, les arrondissements parisiens, c'est pas juste un découpage administratif sur une carte. C'est vraiment l'héritage d'une histoire assez mouvementée, entre la grande planification d'Haussmann, les réalités sociales de l'époque, et même, on l'a vu, cette histoire un peu cocasse du numéro 13.
Exactement. Et cette structure en spirale, même si elle est née de circonstances un peu particulières, ben elle continue de façonner l'administration, l'identité, la perception de Paris aujourd'hui. Même avec les ajustements récents comme la création de Paris Centre, ça reste très présent.
Tout à fait. Et ça laisse une question en suspens, peut-être. Comment cette organisation, qui vient quand même du 19e siècle, même si elle a été un peu réformée, comment va-t-elle continuer à s'adapter au défi d'une grande métropole au 21e siècle? Est-ce que la spirale a encore un sens pratique, au-delà de son poids historique et symbolique?
C'est une excellente question pour l'avenir de Paris.
Une question ouverte pour la suite.